Vous avez été témoin avec moi combien l'actualité cette semaine a été perturbée. Oui ou non? Et vendredi soir, quand je me suis couché, je dors toujours les volets ouverts. Je dors pas dans le noir. J'aime toujours voir la nuit. Et il faisait très beau. Il y avait la pleine lune. Écoutez bien, c'est pas pour faire de la poésie. Tout était calme. Et je disais, c'est beau quand c'est calme. Oui ou non? Et tout d'un coup, la pensée du Seigneur m'est venue. C'est peut-être calme parfois, mais je peux vous dire que quand vous lisez la Bible, vous lisez écrit « Avis de tempête ». Vous savez les baromètres? Vous savez ce que c'est un baromètre? Vous savez, vous pouvez parfois, il peut faire très beau, il peut y avoir écrit « Tempête ». Et il vaut mieux le prendre au sérieux, à moins que l'église soit bloquée. Et je peux vous dire que la tempête, elle vient. Vous le croyez qu'elle vient? Je vous l'ai dit, je vous l'ai souvent dit. Et je voudrais lire avec vous, parce que j'ai prié, j'ai dit « Seigneur, c'est pas mon habitude de chercher une pensée ou une prédication par rapport à l'actualité. » Il y a tellement de choses qui ont été dites, par rapport en particulier à la liberté de conscience. Vous avez entendu? Vous l'avez entendu? Si vous avez regardé les informations quelquefois, vous l'avez entendu 20 fois au moins. La liberté de conscience. Et c'est le titre que je voulais donner à ma prédication. Et en fin de compte, j'ai donné comme titre à ma prédication un verset qu'on va lire maintenant. Dans 1 Timothée, au chapitre 1er, vous vous rappelez que ça fait partie des épîtres pastorales dont c'est adressé à des pasteurs, en vérité, mais c'est valable bien sûr pour l'Église, c'est évident. Dans 1 Timothée, au chapitre 1er, au verset 18, l'apôtre Paul donc dit ceci. « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. » C'est le titre de ma prédication, « Garde une bonne conscience », vous allez comprendre à la fin. « Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » La réaction va être très sévère, puisque Paul demande à Timothée, explique qu'il a dû mettre donc une femme et un homme, Hyménée et Alexandre, en discipline, ça veut dire qu'il les a livrés à Satan, il les a remis dans le monde, deux chrétiens, couple. Pourquoi? Pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Alors on pourrait lire plusieurs. Il y a des textes avec une concordance, vous pouvez le faire, je vous encourage à le faire. Par exemple, quand Paul parle aux Romains au chapitre 9, voilà, on a le temps, on a vraiment le temps de voir des textes. Donc je tiens à ce qu'on le fasse d'une manière saine, posée. Vous voyez, lorsque Paul parle de son ministère, Romains chapitre 9, verset 1, il ne parle pas que de sa foi. Vous remarquerez que souvent dans la Bible, c'est des hommes de Dieu, où Dieu nous parle directement de notre conscience. Et je crois qu'avec ce qui se passe, c'est bien que vous compreniez ma pensée, ou la pensée du Seigneur surtout, ce n'est pas la mienne, je ne pense pas. Romains chapitre 9, verset 1er. « Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Vous voyez, Paul ne parle pas que de la foi, il parle également de sa conscience. Vers Romains chapitre 13, c'est des textes que je vous encourage à méditer, ils vont vous aider à mieux comprendre ce qui se passe. Parce que je ne suis pas là pour polémiquer par rapport à ce qui se passe. Je pense que normalement, il n'y en a pas besoin. Si on polémique dans une église par rapport à ce qui s'est passé cette semaine, c'est que les chrétiens sont vraiment, vraiment, vraiment égarés. Croyez-moi. Romains chapitre 13, verset 5. C'est une question par rapport à la soumission aux autorités. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est pour ça que j'ai souvent dit que ce n'est pas la peine d'acheter un coyote. Ce n'est pas la peine. Non, mais riez pas. Ça vous fait rire, mais je peux vous dire que si quelqu'un avait une conscience saine, il n'y aurait pas besoin de tous ces trafics pour essayer de ne pas perdre des points. Quand Paul parle à Tite, un peu plus loin dans l'épître, dans une autre épître pastorale, il explique ce que sont devenus certains chrétiens. On aurait pu le lire juste après Timothée, puisque c'est après. Timothée, Tite. Il explique ce que sont devenus certains chrétiens. Tite. Tite, chapitre 1er, verset 13. C'est important que nous mettions plusieurs de ces versets ensemble pour que tous nous réalisions l'importance de la conscience chez le chrétien. Tite, chapitre 1er, verset 13. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement. C'est peut-être le cas pour quelqu'un ce matin. Cette prédication va être peut-être sévère, j'en sais rien. Mais ça peut être quelque chose qui va vous aider, vous allez comprendre vraiment la fin. Reprends-les sévèrement. Un chrétien, il accepte la douceur, il accepte la sévérité. Afin, c'est pas pour rien, afin qu'ils aient une foi saine. Il n'y a pas que la foi qui doit être saine. Et qu'ils ne s'attachent pas à des faibles judaïques, à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Vous avez vu, dans deux textes, on associe la foi et la conscience. Ils font profession de connaître Dieu. Et je peux vous dire qu'il y en a. Alors, le problème, ce n'est pas d'être moraliste ou de faire un constat négatif. Le problème, c'est que chacun d'entre nous, chrétiens, nous posions la question, bien sûr, est-ce que j'ai une foi saine? Et mais est-ce que j'ai une bonne conscience? La liberté de conscience. Tout ce que les journalistes, les ministres ont pu dire cette semaine sur la liberté de conscience, alors c'est sûr que ça fait bling bling ça. La liberté de conscience, ça fait bien. Mais laissez-moi vous dire que je pense qu'on a besoin d'un éclairage spirituel pour comprendre vraiment ce que c'est la liberté de conscience. Garde une bonne conscience, mes frères et sœurs. Écoutez la voix du Saint-Esprit qui nous dit ce matin à chacun, garde une bonne conscience. Et je vous assure, moi je remercie Dieu d'avoir entendu certaines choses, d'avoir vu certaines choses, parce que moi je n'arrive pas à croire que certains chrétiens peuvent en être arrivés à accepter des abominations. Et je sais que peut-être certains vous allez faire des yeux comme ça, mais je peux vous dire que l'abomination, c'est quelque chose de terrible. Les insultes, c'est quelque chose de terrible. Et que nous le voulions ou non, quand on ne fait pas attention à certaines choses, on ne se rend même pas compte qu'on est à l'intérieur. Vous vous rappelez, dans l'évangile de Luc, le brigand impie, vous savez qu'il a insulté Dieu. Vous savez qu'il a insulté Dieu? Est-ce que c'est écrit? Bon. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous vous rappelez ce qu'il a dit? C'est une insulte. Le Saint-Esprit dit que c'est une insulte. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous vous rappelez? On va le lire, parce que je sais qu'il y a des chrétiens qui ne peuvent même pas comprendre que c'est une insulte, tellement ils en sont loin. Alors, je veux être très sérieux, comme chaque fois bien sûr, mais je ne voudrais pas que ma pensée prenne le dessus sur la pensée du Seigneur. C'est pour ça que je veux faire très attention. C'est un danger quand on prêche que nos pensées se mélangent avec celles du Seigneur, et ça c'est pas bien du tout. Mais regardez dans Luc au chapitre 23. Il faut que nous lisions ces textes. Il est impossible que vous compreniez la conclusion de ma prédication si vous ne saisissez pas tout ce que je vais vous dire. Luc 23, verset 39. Bon, c'est l'impie. Vous savez qu'il y avait deux brigands. Un qui s'est repenti, on appelle le pénitent, et l'impénitent. L'impénitent. L'un des malfaiteurs crucifié l'injurier. L'injurier? Mais qu'est-ce qu'il disait? N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Donc, le Saint-Esprit qui inspire le docteur Luc lui fait dire que c'est une insulte. Pour beaucoup de gens aujourd'hui, parler comme ça, ce n'est pas une insulte. Mais c'est pour vous dire où ça commence. Pour beaucoup de gens, parler avec irrespect à Dieu, ce n'est pas une insulte. Mais ça, c'est une insulte. Et ça devrait déjà nous faire réfléchir, parce que si certains ont perdu la conscience, vous comprenez bien que c'est pas comme ça. C'est que ça a commencé par une mauvaise compréhension de ce qu'était le respect de Dieu, de ce qu'était la sainteté. Quand on dit à Jésus, « Fais ceci, et fais cela !» Eh bien, écoutez-moi, ça peut friser l'insulte. Alors, vous vous rendez bien compte que ce à quoi on a assisté cette semaine, je ne parle pas de ce qui est barbare et de ce qu'on peut que condamner tous. Ben, c'est clair, c'est même pas la peine d'en parler. Mais mes frères et sœurs, vous le savez, j'ai failli prêcher sur les dispensations. Vous savez ce que c'est les dispensations dans la Bible? Est-ce que vous savez ce que c'est? Bon. Nous sommes aujourd'hui dans la dispensation de la grâce. Vous êtes d'accord avec moi? Quand Jésus est mort, il a introduit la dispensation de la grâce, ou de l'Église, suivant les théologiens. Mais nous sommes en train de voir que même si la grâce de Dieu s'achève, nous allons entrer dans la dispensation, la dernière du millénium, mais entre la dispensation de la grâce et la dispensation du millénium, il y a ces temps de colère. Et ce que vous voyez et ce que vous allez voir ne doit pas vous effrayer, même si ça doit nous donner de la compassion. Tout à l'heure, au jeûne et prière, je pense que c'est bien qu'on prie pour les familles de ceux qui ont été brisés par... Est-ce que c'est bien de prier pour les familles? Pas besoin d'aller marcher dans la rue. Il vaut mieux prier pour les familles qui sont endeuillées, parce que quand même, je pense qu'on peut le faire. Et que dans ces épreuves, le Seigneur peut parler à des cœurs. Vous voyez, ça, je crois que c'est le rôle de l'Église d'intercéder pour les gens qui sont endeuillés par ce qui est arrivé. Mais... il y a des dispensations. La première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence. Notre frère, ce matin, nous rappelait ce qui s'est passé un peu dans le jardin d'Éden. Et vous savez que lorsque Adam et Ève ont péché, ils étaient dans cette dispensation de l'innocence. Ils étaient nus, et tant qu'ils n'avaient pas péché, ils ne se rendaient pas compte de la condition dans laquelle ils se trouvaient. Vous connaissez cette affaire. C'est sûr que quand on lit la Bible et qu'on ne connaît pas les dispensations, on peut se poser des questions. Et Dieu va poser une deuxième question à Adam. Qui t'a appris que tu es nu? Vous vous rappelez? Il lui pose une question première, où es-tu? Pour rétablir le contact. Ce que Dieu veut faire, une prédication, c'est de toute façon pour améliorer le contact ou pour retrouver toujours mieux le contact avec Dieu. Donc, Adam et Ève n'ont pas écouté le test, parce que chaque dispensation dépend d'un test. La définition de la dispensation, je vous la donne. La dispensation est un temps pendant lequel l'homme est éprouvé en fonction de son obéissance à une révélation spécifique à la volonté de Dieu. Cela implique la souveraineté de Dieu, faisant connaître ce qu'il demande à l'homme. Deuxièmement, la responsabilité de l'homme d'accepter ou de rejeter les exigences de cette révélation. Et troisièmement, un temps appelé âge pendant lequel l'obéissance de l'homme est éprouvée. Si vous ne retenez pas, ce n'est pas grave. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que Dieu est souverain et que l'homme est toujours responsable. Nous sommes responsables. Vous le savez, nous sommes responsables. Donc, la dispensation de l'innocence par le péché et l'intervention de Dieu pour sauver Adam et Ève les amène dans la dispensation de la conscience. C'est une deuxième dispensation, on l'appelle la dispensation de la conscience. Après, il y a la dispensation du gouvernement, de la promesse, de la loi, de l'Église et du millénium et le royaume. Nous sommes, nous, dans la dispensation de la grâce. Est-ce que vous percevez que cette dispensation est en train de s'achever? Vous le percevez? Alors, je sais que plusieurs personnes ont été choquées ce matin, je le sais par mon esprit. Vous avez entendu un chant « Notre Dieu règne encore ». Plusieurs vous avaient dit, à juste titre, que Dieu régnait. Et il y a des gens qui ont pensé, ah ouais? Ah ouais? Il règne. Dieu règne. Il ne règne pas de fait comme il va régner après l'enlèvement. Comme il va régner lorsqu'il sera le roi de toute la terre, vous comprenez bien que ça va changer de registre. Pour le moment, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Il est assis sur son trône, il règne de droit, mais il va régner de fait lorsqu'il va revenir sur l'Église, chercher l'Église. Vous me suivez? Parce que nous sommes dans une dispensation où l'homme est en train de se positionner. Et ce que vous avez vu cette semaine, et ce que vous avez entendu cette semaine, vous montre exactement comment l'homme est en bonne santé au niveau de sa conscience. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, nous les chrétiens, bien sûr que nous respectons la vie de chacun, etc. Je veux dire, le problème, il n'est pas là. On n'est pas là, moi je ne suis pas là pour vous influencer par rapport à ce que j'aimerais que vous pensiez, etc., etc. Je suis là, même s'il me fallait, comme on l'a lu, reprendre sévèrement l'auditoire ou quelqu'un parce qu'il est en train de perdre la conscience, parce que sa foi n'est pas saine, et ça vous met en danger, ça vous met en danger, vraiment en danger, sans que vous ne vous en rendiez compte, tout en étant peut-être sentimental. Mais il faut voir... Il faut voir, mes frères et sœurs, où nous en sommes au niveau de notre conscience. La conscience, on a tous une conscience. Quand Paul parle aux Romains, il parle de ceux qui auront vécu sur la terre sans entendre la loi de Dieu. Il y a des millions de gens qui auront vécu sur la terre, dans plein d'endroits, dans plein de pays, et qui, bon, aujourd'hui non, mais il y a 100 ans, il y a plein d'endroits dans le monde entier où on n'a jamais entendu parler de Jésus. Les gens ne savent même pas ce que c'était un blanc, ou la Bible, ou la croix, oui ou non. Et qu'est-ce que Dieu dit? C'est important de comprendre, mais vous allez voir que ça ne suffit pas. Romains chapitre 2, au verset 14. Paul parle, oui c'est Romains, oui. Romains chapitre 2, au verset 14. Je veux vous amener à comprendre quelque chose, mes frères et sœurs, parce que je suis peiné de voir ce que j'ai entendu cette semaine. Pas de ce qui s'est passé à la télé. Je suis peiné de voir comment certains chrétiens ne se rendent pas compte qu'ils sont tombés dans l'abomination. Et ça, ça craint, je vous le dis. Romains chapitre 2, verset 14. Vous savez que l'épître aux Romains commence par le jugement. C'est impressionnant parce que Dieu veut que l'on comprenne que le jugement va venir. Romains chapitre 2, verset 14. Quand les païens qui n'ont pas la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage. Et leurs pensées, s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Alors la conscience, c'est extraordinaire, mais ça ne suffit pas. La preuve, c'est que vous avez remarqué, il est dit que la conscience rend témoignage aux hommes qui ne connaissent pas la loi ou la parole, et que leur cœur, leur pensée s'accusent ou se défendent. Vous avez remarqué? Je vous donne un exemple très simple. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'a jamais connu Dieu, qui ne connaît pas la Bible, qui ne connaît pas Jésus-Christ, et son œuvre au calvaire. Il a une conscience, c'est ce qu'on vient de lire. C'est sur cette conscience qu'il sera jugé quand il passera devant Dieu. Mais vous avez remarqué qu'il est embarrassé parce que tantôt ses pensées le défendent, tantôt ses pensées l'accusent. On le voit chez nous, hélas parmi les chrétiens aussi, mais enfin, ça c'est grave. Je prends un exemple, le mensonge. Le mensonge dans le monde, c'est bien ou c'est mal? C'est bien le mensonge? Mais vous savez, nous on a été, je vous le dis parce que c'est... On était à une pastorale en Polynésie. Et il y a un pasteur, je vous le dis pour vous montrer que, et vous allez voir que la conscience, on n'est pas à l'abri. Un pasteur qui a dit, oui, le mensonge, ça fait partie de la culture. Et je me rappelle ma femme qui a dit au pasteur, ah bon, donc Dieu a dû faire une Bible esprit pour les Polynésiens. Et le pasteur, il a été bien sûr, non mais c'est pour vous dire comment ce pasteur avait perdu la conscience. Le mensonge, il y a des gens qui vont dire, non le mensonge, c'est mal le mensonge, il ne faut pas mentir. Mais... Quelqu'un de la famille est malade, quelqu'un a le cancer, il ne va pas le dire là, il ne va pas le dire. Non, il ne faut pas le dire, il faut mentir parce que les enfants, il ne faut pas qu'ils le sachent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la conscience, elle n'est pas éclairée comme la nôtre, comme un scalpel. Et voilà, les pensées s'accusent ou se défendent tour à tour. On pourrait dire beaucoup de choses. En tous les cas, ça explique que la conscience nous a été donnée, mais qu'elle ne suffit pas. On a besoin de la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je ne vais pas donner d'autres exemples, mais vous comprenez ce que je veux dire. Leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Parce que la conscience est claire, mais vous comprenez bien qu'elle n'éclaire pas, comme le fait la parole du Seigneur. Elle nous a été donnée, la conscience. Dieu nous l'a donnée. Dans le jardin d'Éden, vous l'avez vu, mais qui t'a appris ? C'est sa conscience. C'est sa conscience qui le lui a apprise. La conscience nous a été donnée pour nous faire réfléchir. Moi, je compare la conscience à un couteau qui taille ou qui ne taille pas. Vous avez déjà coupé un beefsteak avec un couteau qui ne taillait pas ? Vous avez vu ? Et il y a des couteaux. Moi, je sais que le couteau soit bien aiguisé. Eh bien, c'est exactement pareil. Ou elle est aiguisée, ou elle ne l'est pas. Il y a des gens, ils s'agagnent pendant un quart d'heure pour manger un morceau de steak. Parce qu'ils n'arrivent pas à le couper, parce que le couteau n'est pas aiguisé. La conscience, elle doit parler. À l'intérieur de nous-mêmes, elle doit nous parler. C'est incontournable. C'est pour ça que quand la conscience ne parle plus, on ne parle pas de la foi, on parle de la conscience. Mais quand la conscience tolère ce qui n'est pas une insulte, mais ce qui est une abomination, je peux vous dire que ceux qui parmi nous tolèrent les abominations et qui ne se rendent même pas compte, je peux vous dire que Dieu doit vous reprendre sévèrement. J'espère qu'il n'y en a pas parmi nous, il se peut qu'il n'y en ait aucun. Mais je sais que parmi tous les milliers de gens qui m'écoutent ou qui m'écouteront sur Internet, certains se sentiront certainement concernés et je le sais. Qui a poussé Judas à jeter les 30 pièces d'argent dans le temple, vous vous rappelez ? Et qui l'a poussé après, hélas, à se suicider. C'est terrible ça. Qui lui a dit « c'est mal ce que tu as fait » ? C'est sa conscience. Qui lui a fait dire « j'ai vendu le sang innocent » ? Il a dit ça, j'ai vendu le sang. Qui lui a fait dire ça ? C'est la conscience. Qui a fait que quand le coq a chanté, un certain Pierre s'est retourné, a croisé le regard du Seigneur et qu'il est parti et il a pleuré amèrement, ce qui lui a valu une véritable bénédiction, une véritable repentance, à tel point que c'est lui que Dieu choisit pour prêcher à la Pentecôte quelques jours après, ce qui prouve qu'il y a vraiment eu la bénédiction de Dieu. Mais qui lui a dit ? C'est sa conscience. Vous vous rappelez quand les religieux soucieux, scrupuleux de respecter la loi de Moïse, ont amené une femme prise en flagrant délit d'adultère au pied de Jésus et qu'ils ont voulu le coincer en lui disant « Maître, que dit la loi de Moïse ? N'ordonne-t-elle pas de lapider de telle femme ?» Et Jésus leur a parlé et il nous est dit que, repris par leur conscience, ils se retirèrent. Au niveau de la loi, je pense qu'ils n'étaient pas trop mal, mais au niveau de leur conscience, c'est écrit ou c'est pas écrit ? Repris dans leur conscience, il n'est pas dit dans leur foi, ils n'avaient pas la foi. Repris dans leur conscience, ils se retirèrent. Vous savez, cette prédication, c'est une des premières fois où je pense que Dieu m'accorde sa pensée par rapport à quelque chose de l'actualité. C'est pas incohérent. Jésus souvent prêchait par rapport à ce qui se passait. Vous êtes d'accord avec moi ? Bon. Mais qui leur a parlé à ces religieux ? La conscience. Qui leur a montré l'hypocrisie de leur cœur ? La conscience. Mais elle ne suffit pas. Des fois, toujours, la conscience ne suffit pas. Vous allez le comprendre. On a besoin de la lumière de la parole de Dieu. Et même quand il y a la lumière de Dieu, parfois, il y a besoin, en plus d'un instrument. Vous vous rappelez dans la parabole de la drachme perdue ? Cette femme qui avait perdu une des 10 drachmes, et qu'on a été. La personne a pris de la lumière. Qu'est-ce qu'elle a pris en plus de la lumière ? Vous vous rappelez ce qu'elle a pris ? Les stagiaires. Bon, je ne vous reconnaîtrai pas. Et elle dit qu'elle a pris la lumière, une lampe et un balai. Vous ne vous rappelez pas ? Le balai, pourquoi il a fallu quelque chose de plus que la lumière ? Il a fallu un balai. Le balai, excusez-moi, c'est l'instrument humain. Il faut en plus de la lumière, il faut un instrument pour ramener. Il y a des gens, ils sont tellement dans le noir qu'en plus de la parole, ils ont besoin de quelques explications humaines pour ramener de la profondeur des ténèbres. Parce qu'il y a des gens, ils ouvrent la Bible, ils ne comprennent rien du tout. Il y a besoin d'instruments humains. Mais tout ça pour vous dire que la conscience ne suffit pas. Parfois même la parole de Dieu ne suffit pas. Il faut des moyens humains. L'important, d'être rempli du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, et d'être de bons témoins pour aider les gens à découvrir le Seigneur. Un autre exemple, plus clair. Vous allez finir par me comprendre. Vous vous rappelez, David, lorsque Dieu l'a appelé, il l'a choisi, parce que lorsqu'il a regardé parmi tout Israël, et Dieu regarde partout aujourd'hui, sur toute la terre, quand le Seigneur a regardé, il a dit, j'ai trouvé un homme, selon mon cœur, qui exécutera toute, mes volontés. David, lorsqu'il a été appelé roi, il est resté berger, et pendant des années, très longtemps, on pense une dizaine d'années, il a été malmené dans sa formation, comme ça peut arriver. Il a été malmené par le roi Saül. Et un jour, par hasard, entre guillemets, vous avez compris, un jour, alors que David se reposait, se cachait dans une caverne, il se repose dans une caverne, tout d'un coup, un de ses officiers lui dit, tu sais pas, qui c'est qui est à l'entrée de la caverne? Il y a le roi Saül, avec tous ses hommes. Ils sont en train de dormir. Et il y en a un, très inspiré, de ses officiers, de ses bras droits, qui va lui dire, écoute David, tu peux pas t'imaginer le bol que tu as aujourd'hui. Dieu te livre, Saül. Tue-le. C'est le Seigneur qui te le donne. Vous connaissez cette affaire, hein? Prends ton javelot et vas-y, quick, tue-le. C'est ce qui s'est dit. Vous savez, ça peut arriver que Dieu nous éprouve au travers de gens qui sont proches de nous. Est-ce que ça peut arriver? Oui, ça peut arriver. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une conscience saine. Je voulais vous donner un témoignage, mais c'est pas utile. David, donc, va entamer une démarche et va discrètement, Dieu permet que Saül dorme comme un loir, tout le monde dort bien. Dieu est en train d'éprouver David. Il s'approche discrètement avec son épée ou son couteau de Saül. Et alors qu'il ne fait que découper le pan de son manteau, il nous est dit que quand il a découpé le pan de son manteau, son cœur se mit à battre. J'ai la référence, c'est dans 1 Samuel, verset 24, chapitre 24, pour ceux qui veulent lire cette histoire qui est quand même extraordinaire. Il ne fait que découper discrètement le pan de son manteau et paf, son cœur se met à battre, sa conscience est aiguisée. Là, on voit ce que c'est une conscience aiguisée. À peine, vous vous rendez compte, il ne l'a pas tué, il ne l'a pas touché, il a touché son manteau. Il a juste coupé le pan de son manteau et son cœur se mit à battre. Voilà ce qui se passe quand on a une conscience aiguisée, c'est que de suite on devrait agir dès qu'on voit le mal, dès qu'on nous pousserait à faire le mal. Est-ce qu'on peut nous pousser à faire le mal? Ben oui. Là on voit vraiment ce que c'est, une bonne conscience. Le temps va passer, les années vont passer, David va être béni, il va devenir le roi d'Israël. Les années passent, il fait des campagnes, c'est un homme de guerre. Bon, là aussi, il faut comprendre la dispensation pour comprendre ces choses. Aujourd'hui, c'est impossible qu'un chrétien soit un guerrier, dans le sens du mot, correct du mot, pas spirituel. Les années passent, il gagne des guerres, et l'année où il doit partir se mettre en campagne pour faire des guerres, cette année-là, il prend la décision de rester à la maison. Vous connaissez cette affaire? Il reste à la maison, il n'est pas à sa place. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que chacun d'entre nous, nous sachions quelle est notre place. Car beaucoup de chrétiens ont perdu la conscience, ont perdu la foi, parce qu'ils se sont autorisés à faire leur propre volonté. Et ce jour-là, David était resté à la maison. Peut-être qu'il avait un certain âge, on pense qu'il avait à peu près 50 ans. Peut-être qu'il est resté à la maison. Et voilà, il est sorti le soir sur sa terrasse et il a vu sur la propriété d'à côté, une jolie femme qui se baignait. C'est pas interdit de voir une jolie femme. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, parce qu'on me fait dire tellement de choses que je pense que c'est bien des fois que c'est pas interdit de dire « Tiens, telle femme, elle est jolie. » C'est pas interdit. Mais ce qu'il a fait qui n'était pas bien, c'est qu'il s'est renseigné, il a dit « Tiens, il a demandé à un de ses gardes, mais qui renseigne-toi pour savoir qui est cette femme là-bas qui se baigne. » Et le gars, il est revenu, il a dit « Écoute, c'est la femme d'un de tes officiers, qui est d'ailleurs à la guerre, c'est la femme du riz, le Hessien, un type bien. » C'était quelqu'un de bien en plus. Et voilà, elle est mariée. Je pense que, voyez, s'il avait gardé la conscience qu'il avait quelques années plus tôt, ça aurait dû s'arrêter là. Vous me suivez? Parce que qui se renseigne, bon, quoi qu'il avait une jolie femme. Est-ce qu'Abigail était une belle femme? Oui, la Bible dit que c'était une très belle femme. Je vous dis ça pourquoi? Pour vous expliquer que la tentation, ça existe. Mais ça devrait s'arrêter à la tentation. Le problème, c'est quand la tentation n'est pas briefée. Regardez, on va le lire, parce que c'est bien de le lire. Mais je vous assure, mes frères et sœurs, je sais que je vous l'ai déjà lu, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié. Dans l'épître de Jacques, Paul explique le processus par 5 verbes de ce que je suis en train de vous dire. C'est important, frères et sœurs. Jacques, chapitre 1er, il parle de la tentation. Jacques, chapitre 1er, verset 13. C'est important, c'est comme ça qu'on apprend à veiller sur sa foi et sur sa conscience. Jacques, chapitre 1er, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Ah aussi, là, bon. Là, ça commence à craindre aussi. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Regardez bien. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Vous voyez, la tentation, l'attirance et l'amorce. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché est à consommer, produit la mort. Ce n'est pas la tentation qui produit la mort. Il y a des gens qui disent, oui, Jésus a dit que si un homme regardait une femme, il avait déjà commis l'adultère avec elle. Moi, je n'ai pas lu ça. J'ai lu dans la Bible, celui qui convoite une femme a déjà commis l'adultère. Je vais vous dire, c'est une chose d'être tenté, et ça n'est une autre de convoiter. Mais il faut le dire, parce qu'il y a des gens qui... Moi, il y a un gars qui m'a dit un jour, j'ai commis l'adultère, il était mais tout défait. Et en fin de compte, il avait interprété ce verset, il en souffrait, comme il avait pas confondu la tentation et la convoitise. Vous avez vu qu'il y a plusieurs étapes entre l'attirance. C'est normal d'être attiré par une jolie femme, il faut être intelligent quand même. Mais ça devrait s'arrêter là et dire, notre conscience devrait nous dire de suite, stop. Comme quand cet officier a dit à Saül, écoute, Dieu te livre, Saül, le jour de ta royauté est arrivé. Vous vous rendez compte? En plus, ça tenait debout parce que, est-ce que David était appelé à être roi? Oui, mais il y a le temps de Dieu. Mais voyez, quand il avait une conscience, mais il n'y avait pas de nuage entre le soleil et le cadran, ça plâchait de suite. Mais là, le temps a passé, et voilà, il se renseigne, et malgré le fait qu'il sache que cette femme, c'est la femme d'un de ses amis, tenez-vous bien, un de ces hommes qui est en train de se battre pour lui, enfin je veux dire, bon, et qui c'est qui a fait ça? David, c'est pas possible, c'est pas David, vous êtes trompé d'homme. Mes frères, si David, vous allez me dire, oh, mais moi si j'étais roi, je vous inquiétez pas. Alors écoutez bien, que Dieu nous garde de faire très attention à ce qu'on dit. Parce que je me demande ce qu'on ferait si on avait eu la royauté. Je me le demande. Mais enfin, vous avez dans ce chapitre 1er de Jacques les étapes qui passent de la tentation à la mort. Parce que le péché, il produit la mort. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas possible, on ne peut pas perdre le salut. Moi, je vous dis qu'un chrétien peut perdre le salut. C'est le sujet doctrinal qui est le mieux expliqué dans la parole de Dieu. Oui, ça aurait dû s'arrêter quand il a été renseigné. Après, bon, dans le contexte de l'époque, qu'il veuille une autre femme, c'était possible. Mais il y a des moments, on doit savoir, par la conscience, par la parole, les choses. C'est pour ça que moi, cette semaine, j'ai été beaucoup affligé d'entendre certains chrétiens cautionner ce qui était, pas une insulte, ce qui était abominable. C'est grave, mais je vous assure, c'est grave. Que Dieu me garde qu'il y ait des chrétiens comme ça dans l'assemblée où il m'a placé. Vraiment. Ça serait une grosse souffrance de savoir que dans l'assemblée, il y a des gens abominables. Monsieur Gros, il n'y a pas des gens abominables. Ah oui ? Eh bien, venez me poser des questions parce que je pense que ça ne regarde pas l'auditoire. Mais si individuellement vous étiez interpellé, je vous expliquerai. La convoitise, elle produit la mort. Et David, vous connaissez la suite ? Vous connaissez la suite ? Vous voyez la différence de conscience entre le David berger dans la caverne et le David roi dans son palais ? Vous avez vu comment ça va vite ? Mais cet homme, et c'est là que je voudrais terminer, cet homme qui avait perdu la conscience, qui savait très bien ce qu'il avait fait, il savait très bien, c'était quelqu'un d'intelligent, Dieu a dit qu'il lui avait donné des mains intelligentes. Cet homme, Dieu va attendre un an. La conscience n'a pas fait son travail. Mais la parole de Dieu va faire le travail. Et vous savez qu'un an après, Dieu va envoyer à David le prophète Nathan, cet homme qui a risqué sa vie ce jour-là pour parler au roi David, qui était pas en vrac, je peux vous le dire, à ce moment-là. Vous connaissez la façon dont Dieu a utilisé Nathan pour parler au travers d'une parabole, mais c'est la parole de Dieu. Et c'est pour cela que si notre conscience n'est plus bonne, c'est ça le problème, c'est ça la prédication. Si vous avez perdu la conscience et que vous cautionnez ce qui est insulte et abomination, ce n'est pas un discours, il faut que vraiment la parole de Dieu parle à votre cœur si votre conscience est éteinte ou ne taille plus, n'est plus aiguisée. Et Dieu va envoyer Nathan, il va dire à Nathan, Nathan va lui dire, Dieu savait comment parler à David, c'était quelqu'un d'intelligent, il va lui parler, vous savez la parabole du pauvre qui avait une brebis et du riche qui avait un grand troupeau et Nathan, moi j'aurais aimé le voir, j'irai le voir. J'irai le voir plus tard, pour lui parler. Et il va lui raconter l'histoire. Tu sais, j'ai une parabole à te raconter. Ah bon, raconte, Nathan. C'était quand même quelqu'un, Nathan. Tu sais, il y avait un homme riche qui avait un grand troupeau. Il était dans l'aisance, etc., etc. Et un jour, il reçoit quelqu'un pour manger. Il invite, etc. Et à la place de prendre une brebis de son troupeau, il va chez le pauvre, voler, lui prendre la seule brebis qu'il avait, qu'il affectionnait. Tu te rends compte, David ? David est furieux. Et il lui dit, cet homme mérite la mort. Regardez bien, Dieu va s'occuper de nouveau de David et il le fait par la parole. Vous êtes d'accord avec moi ? Au bout d'un an. Et c'est pour ça que je voudrais que vous compreniez bien ma pensée, parce que je me doute que je n'ai pas toujours la facilité de bien l'exprimer, je le pense. Mais c'est par la parole de Dieu, et plus par la conscience qui est éteinte, que Dieu va intervenir, parce que Dieu sait quand est-ce qu'il doit intervenir, et j'espère que ce matin Dieu est en train d'intervenir, si vous cautionnez des abominations, croyez-moi qu'il est temps que vous relisiez la Bible. Parce que si vous ne laissez pas la parole de Dieu faire ce qu'elle a fait dans le cœur de David, vous êtes en train de prendre position. Parce que j'ai dit tout à l'heure que dans chaque dispensation, Dieu nous éprouvait. Et que qu'on le veuille ou non, bon, le fossé est en train de s'écarter de plus en plus, mais vous êtes d'un côté ou de l'autre. Et où vous êtes dans la grâce de Dieu et dans l'obéissance, où vous êtes en train de devenir abominable, que vous le vouliez ou non. Si vous cautionnez ces choses, comme ça, c'est le cas de ce que Dieu a permis que je vois cette semaine. Donc, c'est par la parole que Dieu parle à David. Ce n'est que par la parole, sa conscience, hélas, ne peut plus lui parler, comme c'était le cas quand il était jeune berger. Alors, vous connaissez le psaume 51 et le psaume 32. Je vois qu'on a du temps, oui. Dans le psaume 51, lisons-le, nous avons l'histoire de ce qui s'est passé ce soir, là où Dieu a commencé à s'occuper de nouveau de David par la parole. C'est pour ça que ce n'est pas moi qui vais vous convaincre, c'est la parole. C'est la parole. Moi, je peux vous faire un sermon, je peux vous reprendre même très sévèrement. Si votre cœur n'est pas ouvert, eh bien, la parole ne fera rien. Mais regardez, dans le psaume 51, c'est important, c'est un des psaumes que je lis très régulièrement parce que je ne veux pas que Dieu me retire son Esprit Saint, moi non plus. Psaume 51. Et c'est bien la preuve que c'est ce soir-là. Lisez avec moi, psaume 51, verset 2. « Lorsque Nathan, donc vous voyez bien que c'est ce jour-là, le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. » On pourrait écrire « Lorsque Dieu a été vers lui par le moyen de sa parole. » Oui ou non? Donc d'accord. Donc c'est par la parole que Dieu va utiliser un homme, c'est clair, comme c'est le cas ici, Dieu utilise un homme pour vous parler. Et regardez ce qu'il fait. « Oh Dieu !» Aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. C'est là pourquoi David a été restauré, béni, et que même après l'enfant qu'il va avoir avec Bathsheba, ils vont l'appeler Salomon. Le deuxième, vous savez comment il l'appelle ? Vous savez comment il l'appelle ? C'est bien, Nathan. Vous le lirez. Bon. Mais Dieu lui parle, par la parole. Sa conscience est morte. Un an après, et cet homme, il est intelligent. Il ne dit pas, oui, mais tu comprends, cette femme, elle se baignait, là, c'est sa faute. Il n'a pas dit à Nathan, écoute, mets-le-toi de ceux qui te regardent. Sinon, tu vas être raccourci à la fin du jour. Est-ce qu'il aurait pu le faire ? Mais 99 sur roi sur 100 aurait fait ça. Il aurait appelé un garde, il aurait dit voilà, et c'est tout. C'est comme ça que ça marche. Il aurait dit, oui, mais c'est le diable. Nathan, écoute, tu me connais. C'est le diable. Non, j'ai péché contre toi seul. Et on voit aujourd'hui des gens qui ne veulent pas être responsables. Si vous êtes abominable, dites-le, je suis abominable. Je cautionne des choses abominables, je te demande pardon. David a dit, j'ai péché contre toi seul. Et c'est cette honnêteté qui permet à Dieu de purifier notre conscience. Mes frères et sœurs, il le dit, je reconnais mes transgressions, j'ai mon péché est constamment devant moi. Il a fallu que Dieu lui parle. Je nous pose la question, répondons intérieurement, répondez sérieusement au Seigneur. Est-ce que Dieu peut vous parler ? Vous avez dit, ouais, je lis ma Bible, je ne vous ai pas demandé si vous lisiez la Bible. Je vous pose une question solennelle. Est-ce que par sa parole, Dieu peut vous parler ? Vous devez vous lui répondre. Parce que si ce n'est pas le cas, mais soyez honnête. Dites, non, Dieu ne peut pas me parler. Mon cœur est endurci. Je suis abominable. Ce matin, j'avais un verset qui m'est venu là pour le temps du jeûne et prière. Quand il dit qu'ils font leur gloire de ce qui fait leur honte. Non, mais je veux dire, quand vous lisez certains versets, je vous assure que ça, moi, en tant que pasteur, ça me fait réfléchir. Et croyez-moi, ce que j'ai vu cette semaine me l'a prouvé. Il y a besoin de cette honnêteté. C'est grave, bien sûr. Mais on parlait, je dis, avec la réunion des anciens, de quand l'amour de Dieu, que Dieu nous ouvre les yeux sur les profondeurs de son amour. Vous savez, la hauteur, la largeur, la largeur. Mais la profondeur, ça veut dire que mais quel que soit un homme, où il peut être tombé, l'amour de Dieu peut l'atteindre. Vous le croyez, ça ? C'est ça, la profondeur. Les gens disent la profondeur, tout ça. C'est ça. Où qu'un chrétien puisse retomber. David, il était tombé pas mal, moi, je trouve. Vous ne croyez pas qu'il avait plongé depuis le jour de la caverne ? Vous ne croyez pas que c'était plus le même ? Mais Dieu a pu l'atteindre, parce que cet homme, il a été honnête. Il faut être honnête. Je pensais, en parlant d'honnête, les frères de Joseph. Vous connaissez les frères de Joseph ? Qui n'appréciaient pas trop le petit frère. Et qui ont magouillé, et qui ont fait un truc de fou pour faire croire à leur père, en plus à leur père, ce serait un étranger, à leur propre père. Je veux dire, il faut avoir perdu la conscience. Ils ont tué un bouc, ils ont trempé sa tunique déchirée dans le sang du bouc, ils ont fait croire au père avec beaucoup d'émotion que leur frangin était mort, tué par une bête sauvage. Le problème, c'est qu'ils ont réussi à couvrir ça pendant une vingtaine d'années. Puisqu'il y a eu les 13 ans d'épreuve, puis les 7 années d'abondance, bon, ça fait déjà 20 ans. Et que c'est après que, quand la sécheresse a commencé, qu'au bout d'un moment, donc ça fait au moins 20 ans et demi, 21 ans, 22 ans. Pendant 21 ans, Ils ont couvert leur conscience. Et quand ils sont obligés d'aller en Égypte pour chercher du blé, ils se pointent devant un certain premier ministre pour acheter du blé. Ils ne le reconnaissent pas et tu t'étonnes. Et quand ils se présentent, dans une version, ils disent à Joseph, « Nous sommes des honnêtes gens. » Ouais, bon, c'est écrit comme ça. Nous sommes des honnêtes gens. Quand la conscience, elle est étouffée, et Dieu là aussi, par la parole de Joseph, qui va être la parole de Dieu, Dieu va commencer à intervenir dans leur vie. Ça a tenu une vingtaine d'années à laisser leur père souffrir comme cet homme. Vous ne trouvez pas qu'on peut la perdre la conscience? Et attendez, c'était pas David, c'était les patriarches. Dans les patriarches, il y avait Judas, pas Judas Iscariote. Il y avait Judas, l'ancêtre de Jésus. Oui, je crois que Dieu pardonne tout. Je crois que Dieu pardonne tout. Et là, de nouveau, par la parole, c'est pour ça que sans la parole, c'est impossible. Ça a traîné une vingtaine d'années, un truc de malade. Et voilà que Joseph, qui a l'Esprit de Dieu, vous le savez, c'est le premier texte dans la Bible où il est dit qu'un homme a l'Esprit de Dieu, Joseph va leur parler, et puis au bout d'un moment, après plusieurs interventions, parce qu'il faut parfois que Dieu nous parle plusieurs fois pour qu'on commence à comprendre, il y en a un qui sort et qui dit « Ouais, je vous l'avais bien dit ». Quand notre frère était dans le puits, il parlait en hébreu, il ne savait pas que Joseph comprend, hein, et qu'il nous suppliait de lui garder la vie. 21 ans ou 22 ans après, la conscience, vous pouvez faire ce que vous voulez, tant qu'elle n'est pas purifiée par le sang de Jésus, ça reste. Il n'y a qu'une chose que le temps efface, c'est le deuil. Ça, c'est sûr et certain. Mais la conscience, vous pouvez l'enfouir tant que vous voulez, un jour ou l'autre, ça ressort. Là, tout est imprimé dans la conscience, tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Alors, on va lire un verset pour terminer. Mais c'est pour vous expliquer. Ce que je voulais que vous compreniez, c'est que nous avons besoin vraiment de la parole de Dieu. Parce que la conscience, j'aurais pu faire une prédication moraliste. Je vous assure qu'avec ce qui s'est passé, j'aurais pu. Dans Hébreux, au chapitre 9, regardez bien. C'est ça, quelle grâce. Ah oui, Dieu pardonne. Dieu pardonne. Alors il est parlé sur, il y a une comparaison entre le sacrifice dans l'Ancien Testament et le sacrifice de Jésus. On va lire que le verset qui nous intéresse. Hébreux chapitre 9, verset 14. Vous pourrez dire Amen quand vous aurez fini de lire avec moi ce verset, mes frères et sœurs. Vous pourrez dire Amen. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Oui, dites-le de tout votre cœur. Tant qu'on cache ces transgressions, les frères de Joseph, ça a duré une vingtaine d'années, David, ça a duré un an. Il n'y a que la parole de Dieu, le sang de Jésus, qui purifie la conscience. Dans le psaume aussi 32, qui parle de l'expérience de David suite à cette affaire, il le dit, mais tant que je me suis tu. Vous savez, il y a des lois. Vous pouvez dire, non, je dis rien, mais ne dites rien aux hommes, d'accord. Mais il dit, je t'ai fait connaître mon péché. Il faut au moins le faire connaître à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Moi, je trouve que c'est fatigant. Toute la journée, et ça a duré un an. C'était qui parle? L'homme intelligent, selon le cœur de Dieu, qui n'a pas veillé sur sa conscience. Et Dieu a permis. Moi, pendant un moment, j'ai dit, mais pourquoi, Seigneur, tu as attendu un an? Parce que moi, je me pose des questions. Je comprends. Ça, c'est une explication. C'est que la conscience, elle s'éteint. Ça ne suffit pas. Il faut vraiment la parole de Dieu. Tant que je me suis tu, son cœur est brisé, sa conscience est éteinte. Il est malade. Je gémissais toute la journée. Vous lirez le psaume 32. Il est malade. Il est dans l'amertume. Ça fait pitié. Pourtant, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un, David. Mais Dieu a voulu que ce psaume soit dans la Bible. C'est écrit. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Même s'il s'appelle David. Ou même s'il s'appelle au pluriel, les fils de Jacob. Point. Il a agi, il se ressaisit, Il dit « J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. » Et le résultat, tu as effacé la peine de mon péché. Et je termine avec une histoire que j'ai lue il y a des années et qui m'est revenue hier en préparant cette prédication. Écoutez bien, ça va peut-être vous faire sourire, mais ça exprime bien ce que je veux vous enseigner. C'est un émir qui avait un grand château, etc., avec un grand parc. Et il avait des animaux de compagnie, il aimait les oiseaux, il avait un canard. Il avait un canard et il avait un jeune qui était chargé de garder ses animaux de compagnie. C'est une histoire vraie. Donc, ce garçon qui était chargé de garder les animaux dans le parc, en particulier les oiseaux, les canards, tout ça, il avait une qualité, c'est qu'avec une fronde, une vraie fronde, il pouvait toucher quelque chose de précis. Et un jour, sans faire esprit, il était dans une allée et il voulait toucher quelque chose. Et au moment où il lance la pierre, le canard passe. Et le canard, il est mort. Il se retourne, le canard. C'était l'animal préféré de l'émir. J'ai tué le canard. C'est vrai, c'est une histoire vraie. Donc, ni une ni deux, il prend une pelle, il l'enterre près d'une haie, ni vu, ni connu. Le temps passe, et puis un jour, il passe aux cuisines. Il passe aux cuisines, il partait chez lui, rentrait chez lui, et le cuisinier lui dit « Est-ce que tu peux aller me couper du bois ?»« Ah non, mais tu rigoles, moi je ne suis pas payé pour aller couper du bois. » Alors il s'approche et lui dit à l'oreille « Si tu ne vas pas me couper du bois, je vais dire à l'émir où c'est qu'il est le canard. » Et il a eu peur, le gars. Et donc, il a été coupé du bois. Le temps a passé, et chaque fois qu'une occasion se présentait, le cuisinier l'appelait et lui disait « Est-ce que tu peux me faire la vaisselle ?»« Ah non, non, c'est pas mon boulot. » Ah. L'émir saura qui c'est qui a tué le canard. Et un jour, qu'il partait en congé, il avait 3 jours de permission, il partait dans sa famille, et le cuisinier lui dit « Attends, attends, il te faut faire ça, ça et ça. » Et lui, il était désespéré. Il a été voir l'émir. Il a été voir l'émir, il lui dit « Écoutez, je viens vous voir pour vous dire la vérité. C'est moi qui ai tué le canard. » Et l'émir lui a dit « C'est bien d'être honnête. Tu me l'as dit, je te pardonne. » Il repart, il passe par la cuisine. Et le cuisinier lui dit « Va me chercher du bois, fais ci, fais là. » Il dit « Non, je n'irai pas te chercher du bois. » « Ah si, tu iras sinon l'émir. » Non, l'émir, il le sait. Et quand j'ai lu cette histoire, j'ai pensé à notre conclusion de ce matin. Il le sait, notre Seigneur. Je t'ai fait connaître mes transgressions. Heureux êtes-vous. D'ailleurs, le psaume commence par la fin, puisqu'il dit « Heureux l'homme dont le péché est effacé. Heureux l'homme à qui la transgression est remise. » Est-ce qu'il le sait, votre Seigneur, ce qui n'a pas été? Est-ce que vous lui avez dit? Est-ce que vous lui avez dit « Seigneur, je te demande pardon. C'est moi qui ai tué le canard. » Est-ce que vous lui avez dit pardon au Seigneur? S'il le sait, votre conscience, elle est purifiée. Alléluia. Et mes frères et sœurs, c'est pour ça que nous devons, quand il est dit que notre conscience est purifiée, pourquoi? Afin que nous servions le Dieu vivant. La grâce va s'achever. Nous sommes dans les derniers jours. Mes frères et sœurs, ce n'est pas le moment de tourner le dos au combat. Et là, cette visite que ce frère m'a fait, que j'ai faite à ce frère vendredi, m'a fortifié, vraiment fortifié. Parce que je me fais du souci quand je vois les chrétiens qui ne vont plus prier, qui ne prient plus, qui ne lisent plus la Bible. Ils perdront la conscience. Ils perdront la foi. Mais il y a des gens qui, au contact de la parole, disent, ils vont pas couper la tête à Nathan ou couper la tête au pasteur. Parce que si on pouvait des fois le faire, je pense qu'on le ferait. Avec tout ce qu'on m'a dit, c'est pas grave. Je suis pas là pour justifier. Ça m'est égal, vous le comprenez bien. Je suis même pas là, et justement, que Dieu me garde d'exprimer ma pensée. Mais mes frères et sœurs, vous pouvez lire les textes comme vous les voulez. Les hommes qui se sont trouvés un jour purifiés devant Dieu, la conscience purifiée, c'est qu'ils ont dit à Jésus, « Oui, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Seigneur, purifie-moi. » Et Dieu, dans sa bonté, à purifier. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Alors vous qui êtes énervés par ce que vous dites, oui, Dieu règne, mais si régnait, eh bien écoutez, heureusement que Dieu ne règne pas comme vous le lui demandez. Parce que si Dieu régnait comme vous le lui demandiez, la grâce de Dieu n'existerait pas. La grâce de Dieu, c'est une dispensation, elle va bientôt s'achever, et vous vérifierez, si vous n'êtes pas enlevé, vous vérifierez que ce que je vous ai dit, c'était sérieux. Quand la grâce de Dieu va être terminée, la colère de Dieu va venir. Elle est là, elle se met en place, ça va aller mal, très très mal, croyez-moi. Mais une chose est sûre, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. C'est comme ça, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alors heureux êtes-vous, si vous pouvez dire oui, le sait. C'est pas l'émir, mais c'est pas mon émir, mais c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur. Il le sait. Et il purifie ma conscience et je vais le servir, le Dieu vivant. Il y a quelqu'un qui veut le remercier, le Seigneur, dans son cœur? Est-ce qu'on peut fermer les yeux quelques instants? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, mais oui, je veux le remercier. Je veux avouer mes transgressions. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans le péché. Peut-être quelqu'un qui est dans le péché. Peut-être que vous êtes dans l'injure. Vous n'en rendez même pas compte. Peut-être que vous êtes dans l'abomination. Ce matin, pendant la Sainte-Cène, ça nous a été dit que les abominables n'hériteront pas le royaume des cieux. Eh bien, avouons, chacun, même mon frère, par la parole, tu pourras garder une bonne conscience, purifiée. Notre Père, oui, tu nous as laissé ta parole, et tu as poussé l'honnêteté jusqu'à nous montrer ces hommes qui, pourtant, ont été tes instruments. Tu nous as montré combien dans l'échec, le péché, ils avaient été restaurés parce qu'ils avaient été honnêtes avec ta parole. Mon Dieu, merci de ce que ton sang purifie nos consciences. Cette conscience, oui, nous voulons qu'elle soit comme un scalpel aiguisé. Nous voulons aucun nuage entre le soleil de la justice et notre âme, afin que constamment nous soyons éclairés. Seigneur, garde-nous de l'injure, de l'abomination. Parle-nous, Seigneur. Et tu vois tous ceux à qui cette prédication s'adressait vraiment. Seigneur, par ton esprit, amène-les à aimer ta parole, afin que nous soyons purifiés dans notre conscience. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.